Aujourd'hui, le Fil du Fer accueille Samuel González-Gámez, vénézuélien de 33 ans, installé à Montpellier. Samuel est communicateur, il nous expliquera ce que cela veut dire. Il a monté une association singulière mélangeant l'apprentissage des langues, la découverte de soi et de celle des autres. Son association a pour nom Olala Montpellier, il nous en parlera. Bonjour Samuel.
Bonjour Lionel, merci de m'avoir invité.
Samuel, pourriez-vous nous raconter le Venezuela, peut-être nous parler de ses paysages, de ses habitants, de sa culture, peut-être nous dire ce qui vous touche dans votre pays natal?
Bon, parler du Venezuela pour moi, c'est un sujet qui est délicat et compte tenu de la réalité du pays. Cependant, ça ne change rien le fait que bien évidemment il y a un affect. Il y a toute ma famille qui est là-bas, la plupart de ma famille. Il y a ces paysages où j'ai grandi, les choses que j'ai vécues, les gens que j'ai rencontrés là-bas, les expériences. Et qu'est-ce qui me touche le plus, je dirais, c'est les sourires des gens qui me manquent.
Vous m'avez dit vous fichez de vos diplômes. Vous avez pourtant 4 masters. Quels sont ceux que vous avez obtenus? Et pour quelles raisons est-ce que, à vos yeux, l'obtention de vos diplômes n'a pas d'importance?
Bon, après, je vais vous parler de mon point de vue très, très, très personnel. Hein. Et j'ai dit que moi, je m'en fiche je me fiche des diplômes. Et bon, peut-être vous dire lesquels j'ai obtenus avant. Hein. Donc, au Venezuela, j'ai fait une école de journalisme, de communication sociale, option, presse écrite, marketing et communication du visuel. En 5 ans, j'ai fait une école de didactique des langues étrangères, donc un équivalent de LEA. Sur 5 ans aussi, mais concentré sur l'enseignement, l'apprentissage plutôt de langues étrangères, donc pour les non-natifs. Ça, c'est au Venezuela. Et ici, en France, j'ai fait un diplôme de recherche en sociolinguistique, didactique des langues et cultures, etc. Et en 3 ans, c'était quelque chose qui me passionnait, qui me permettait de partir à la recherche de quelque chose qui n'était pas si développé au Venezuela, ou au moins que je sache. Hein. Mettre à chaque fois ces commentaires, c'est important pour moi. Et après, j'ai fait un master en traduction spécialisée, et que j'ai fait en 2 ans. Donc oui, ça fait en effet 4 diplômes. Et je dis m'en ficher parce que je ne pense pas que ça puisse me placer nulle part, en fait, par rapport aux autres personnes, en fait. C'est juste, j'ai choisi d'étudier ça parce que ça me plaît, comme d'autres gens ont choisi de partir et dans d'autres travaux et ne pas faire des diplômes supérieurs, ne pas faire des bacs plus 5. Et on est tous égaux, en fait. C'est juste un choix.
S'il y en a un, quel est le fil conducteur dans votre parcours universitaire, justement? La passion, la raison, un rêve professionnel à concrétiser, vous en avez un peu parlé, mais peut-être développer cette idée-là?
Je pense que la réponse est oui. Oui à tout ce que vous venez de dire, en fait, parce que la passion d'apprendre, la passion qui est renforcée par la curiosité que j'ai toujours eue, le fait de vouloir comprendre, savoir, etc. La raison, je ne sais pas si c'est la raison, mais en tout cas, je reviens à la même chose, c'est le fait de comprendre mieux peut-être hein, ce qu'on nous raconte à l'université, nos profs, c'est ce qu'on lit aussi, mais aussi ce qu'on apprend en échangeant avec nos camarades de classe, etc. Et le rêve professionnel, il a développé entre-temps, en fait, donc... Ça, je ne sais pas, pour l'instant, c'est le fait de pouvoir travailler, de me sentir passionné, de faire ce que je fais actuellement dans la sphère professionnelle de ma vie, si vous voulez ce que je veux dire.
Et donc, pour le devenir journaliste, est-ce que vous pourriez raconter un peu votre expérience de journaliste, d'étudiant journaliste au Venezuela?
Après, encore une fois, c'est mon expérience très personnelle. Et j'ai travaillé un peu dans un magazine de santé où j'interviewais des médecins, j'écrivais des articles médicaux. Et après, j'ai commencé à travailler pour mon stage de fin d'études dans un journal de la ville. Et bon, ce n'était pas ce que je pensais du tout, en fait. Et je m'imaginais, je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça, mais être en mode Peter Parker et Spider-Man, je ne sais pas, montrer aux gens la réalité des choses, etc., en parler, poser les questions. Et finalement, il y avait quand même une ligne éditoriale assez stricte à respecter, plus d'une fois, on m'a dit ça, ça tu changes, ça tu fais pas, ça tu l'enlèves, ou pose plutôt ces genres de questions, ou tout simplement, tu dois refaire l'entretien parce que ça ne convient pas, en fait. Donc, le fait de me prendre autant de trucs comme ça et de voir que j'avais pas tant de liberté que j'aurais aimé, m'a un peu déçu dans mon choix, en fait, de travailler dans ce journal, peut-être que c'est le journal particulièrement, hein, je sais pas.
Vous êtes vénézuélien, donc quel est votre statut en France ?
Mon statut en France, alors actuellement je suis en profession libérale et depuis 2017, quand j'ai fini mon 2018 peut-être, quand j'ai fini mon deuxième master ici en France en traduction. Et voilà, donc j'ai travaillé à mon compte et en tant qu'auto-entrepreneur et je justifie, mais à la fin de l'année, mes revenus à l'État et on m'a dit si c'est bon ou pas par rapport à mon visa.
Vous êtes sur un visa de travail, c'est ça? Ou un autre visa?
C'est encore un autre visa, c'est le visa profession libérale qui a des conditions bien, bien spécifiques à respecter, mais qui sont similaires à celles du visa travail. Ouais.
Pour faire comprendre sa situation et ce qu'il vit, qu'est-ce qu'un exilé dit de l'exil et de ses conséquences aux personnes n'ayant aucune idée de ce que l'exil signifie et implique? Ah, okay. Lourde question.
C'est profond comme question. Je ne sais pas, encore une fois, si je pourrais parler pour tous les gens qui sont dans l'exil, en fait, de mon côté, mon histoire personnelle. C'est juste un manque de repères, en fait. C'est le fait de... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais ici, la réalité, c'est que si finalement, on ne s'entend pas si bien avec les gens, on n'est pas obligé à rester ensemble. On n'est pas obligé à continuer à se côtoyer, etc. Et parfois, je trouve que dans la ville, ça peut aller assez vite, en fait, qu'on switch, qu'on next, qu'on change les gens assez facilement, en fait. Donc, vivre dans l'exil, c'est vraiment c'est une façon, je sais pas, de se reconstruire, de vraiment, pour moi, était de retrouver mes repères, mes nouveaux repères, de me le faire moi-même, et après, de commencer à accepter que les choses sont comme ça, simplement.
Qu'est-ce que vous avez de vénézuélien en France ?
Qu'est-ce que j'ai de vénézuélien en France? Alors, je pourrais penser à ce que mes amis disaient moi, en fait. Et Samuel est passionné. Samuel, le qui fait qu'on m'a dit une fois que j'étais comme le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Que ça allait vite, hein, que je peux parler assez vite ou parfois un peu fort ou un peu plus direct parce que j'emploie plutôt, j'exprime une phrase que j'ai traduite directement d'espagnol sans faire trop attention. Et ça peut, pour des gens, paraître trop direct, voire violent, comme on a déjà dit. Et voilà.
Je crois qu'il y a un certain nombre de Vénézuéliens à Montpellier. Peut-être est-ce que vous pourriez en parler si vous fréquentez cette communauté?
Je pense ne pas pouvoir vous en parler vraiment, en fait. C'est quand je suis arrivé en 2011 à Montpellier, il y avait une petite communauté, et il y avait genre des groupes Facebook que je n'utilise plus, qui existent peut-être encore, mais j'ai du mal à suivre, hein, les réseaux sociaux. Et donc on se connaissait plus ou moins, c'était bon, on venait tous d'arriver, etc. C'était sympa, hein, de se rencontrer, de se découvrir, de se reconnaître même. Et après, je sais qu'il y a des Vénézuéliens, j'entends du Vénézuélien, je vois qu'on mange du Vénézuélien. Et à Montpellier, hein, je ne vous parle pas de Barcelone, par exemple. Et donc, je vois qu'on est là, j'ai croisé des gens, tu es Vénézuélien aussi, et on échange après. À vrai dire, moi, je ne fais pas partie d'une communauté où on se voit tous les mois, toutes les semaines, pas spécialement.
Quelque chose qui n'est pas dit, peut-être on pourrait en parler, c'est la question politique. On entend le Venezuela. Est-ce que vous voulez que nous parlions de ça ou on passe à l'autre question?
Sincèrement, je trouve que c'est un sujet assez délicat et je reviens à la même posture. Je ne sais pas si ma vision des choses peut définir l'ensemble du peuple vénézuélien. Après, si vous voulez me poser des questions précises, vous me les posez. Et si je peux y répondre, c'est avec plaisir.
Est-ce que c'est pour la raison politique de ce qui se passe au Venezuela que vous êtes venu en France?
Et non, en fait, à mon époque, c'était en 2010. Et moi, je suis arrivé pour la première fois en France en 2010 pour y vivre, hein, pour un échange, pour être assistant de langue vivante espagnole. Et dans les Hautes-Pyrénées, à mon époque, c'était une opportunité de fin d'études et de l'école de didactique des langues étrangères. Et c'était une opportunité. Pour moi, c'était une façon de continuer mes études, ma formation en recherche, en linguistique, faire d'autres choses, avoir une première expérience avec les publics adolescents, collège, lycée, en France en plus. Voilà. Et après, je sais que les choses se sont empirées. Il y a d'autres raisons personnelles là, qui m'ont rassuré dans mon choix de venir en France. Et après, je sais que les choses au Venezuela se sont empirées. Hein. J'en suis au courant parce que ma famille y est toujours. Donc, voilà.
Vous avez été un adolescent timide. Aujourd'hui, à l'âge de 33 ans, vous vous dites homme très engagé contre les inégalités. Qu'est-ce que cela raconte de vous et de votre parcours au Venezuela et en France, être journaliste? C'est Tintin, certes, mais c'est aussi enquêter, c'est aussi annoncer la vérité, ou du moins l'exactitude des choses.
Ok. Et je sais pas, je pense que ça a été un peu le fait de l'épanouissement personnel par lequel on passe tous, en fait, le fait de vivre l'adolescence et ne pas trop se reconnaître et commencer à se reconnaître pas par ses égaux et après par les gens qui ne sont pas comme nous, etc. Et pour moi, venir en France, c'était une possibilité déjà de pouvoir assumer mon homosexualité. Aujourd'hui, avec, disons que c'est un sujet qui a évolué, donc je pense que c'est réducteur de ma part de dire je suis un homme homosexuel, parce que je sais qu'il y a d'autres choses. Hein. Mais à l'époque, c'était ça, en fait. C'était le fait de ne pas être réduit à mes préférences affectivo-sexuelles, en fait. Et je corrige, hein, c'est pas une préférence, c'est mon orientation plutôt affectivo-sexuelle, en fait. Mais après, je pense qu'il y a des gens qui vivent la même chose, qui sont nés en France et dont la famille n'est pas au courant de qui ils sont vraiment, parce qu'ils vivent aussi ça avec un peu d'oppression, en fait.
Pour la pause musicale, puisque nous arrivons à la pause musicale, nous écoutons votre choix, Samuel. Et votre choix, je vous laisse le dire, je le prononcerai sans doute mal.
Donc c'est une chanson de Simon Diaz, je me permets de vous raconter un peu. C'est un chanteur et emblème du Venezuela. Et c'est une très belle chanson qui s'appelle Tonada de Luna Llena. Donc c'est une sorte de ballade qui est écrite pour la lune, pour la pleine lune.
Il y a une traduction peut-être pour le titre ?
Et balade pour la pleine lune,
ah, peut-être. Bah c'est aussi simple que ça. Eh bien, écoutons.
Con el mío,
ayer tarde la vi. tarde la la belle
Sur Radio FM+, Samuel González Gámez est au micro du Fil du Fer pour parler de son parcours de Vénézuélien installé en France et de son projet de centre linguistique Olala Montpellier. J'espère bien le prononcer. Olala Montpellier. Vous avez été assistant de langue dans le secondaire, Samuel. Est-ce que cela a à voir avec communicateur, puisque je vous ai présenté par ce mot-là, communicateur? Je vous écoute.
Mais voyons, en fait, je pense qu'il y a, dans l'enseignement et l'échange dans les langues, que ce soit nos langues maternelles ou autres, il y a les côtés communication, il y a les côtés messages à transmettre, les codes, la langue par laquelle on communique, et surtout une sorte de but, en fait, pourquoi je communique. Et j'étais assistant de langue dans les secondaires, principalement parce que j'avais envie de travailler avec le public du secondaire. Et après, disons que mon côté de communicateur, il y est toujours. Et je pense que, pas seulement parce que j'ai suivi des études en communication, en fait. On l'a tous.
Vous m'avez dit donc que communiquer, c'est être, et je vous cite, « en face de l'autre, l'autre étant un complément de soi ». Communiquer dans une langue native ou étrangère n'est donc pas seulement pour vous transmettre des informations à vos interlocuteurs. Alors, qu'est-ce que c'est ?
Je vous ai dit ça ?
Oui.
Alors là, c'est incroyable. Hein ? Et qu'est-ce que je veux dire, en fait, que c'est à travers l'autre, en fait, que ça, qu'on peut aussi se définir, en fait. Je peux vous affirmer que je suis brun, mais c'est parce que vous êtes blanc. Donc, c'est vraiment quand je suis avec l'autre ou avec autrui, en fait, qu'on soit, bon, on est tous égaux, même si on n'est pas les mêmes, et c'est un complément, en fait, c'est à travers vous que mes paroles ont une validité, une compréhension, que je dois ajuster, que mon message est compris ou non, et qu'on ajuste, en fait. Je ne sais pas si je m'explique, en fait, c'est, il y a l'obscurité parce qu'il y a la lumière, on pourrait les voir comme ça, donc... Et après, c'est le côté où je pense en fait qu'on fait tous partie d'une sphère sociale qui est aussi belle parce qu'on est vraiment différents tous les uns des autres, même si on est tous égaux.
Pourquoi Olala Montpellier vous est-il venu à l'esprit et comment et avec qui le projet a-t-il pu être monté ?
Bon, il faut peut-être vous expliquer en fait. Olala, c'est Olala, mais après on l'écrit H-O-L-A. Pas d'accent en espagnol, et trait d'union, elle a accent grave en français, Montpellier. Et ça, c'était une idée qui m'est venue à l'esprit un jour, et, parce que je sais qu'en France, on adore les jeux de mots, et ça m'avait plu, en fait. À l'époque, ça, c'est quelque chose qui est venu à très longtemps, mais bon, entre une chose et l'autre, après la pandémie qui est arrivée, disons que c'est un projet qui a commencé, je sais pas, qui m'est venu à l'esprit il y a longtemps, mais qui s'est adapté aux conditions qu'on vivait réellement, en fait. Et c'était quoi la deuxième partie de la question, s'il vous plaît ?
Comment et avec qui le projet a-t-il pu être monté ?
Ouais, ok, ben merci. Donc, le projet a été finalement, a commencé à être monté en début de cette année civile. Et suite à la... Bon, on avait commencé à discuter la fermeture de l'association hispanophone pour laquelle je travaillais jusqu'à l'année dernière, en fait. Et, ou jusqu'à la fin de cette année scolaire, plutôt. L'année scolaire dernière, pardon. Et c'est sachant que ça allait fermer, qu'avec deux autres professeurs, deux collègues, amis, et on s'est dit, mais peut-être c'est le moment de faire, de franchir le pas, et voilà, à travailler sur ces projets. On discutait sur les noms, on a beaucoup échangé, et je leur ai dit, bon, j'avais pensé à ça pour un podcast il y a très longtemps, et j'ai trouvé ça drôle. Elles ont bien aimé, elles ont adoré, et du coup, on a gardé les noms, et on a commencé à travailler dessus.
Alors parlons de Olala Montpellier, allons au cœur du sujet. Quels sont les objectifs de votre association et quel public voyez-vous être intéressé par Olala Montpellier ?
Bon, et les objectifs de l'association, je pourrais vraiment vous citer les... Bon, j'ai perdu les mots. Les statuts. Les statuts de l'association, c'est stimuler l'échange à travers et les langues étrangères. L'échange avec autrui. Donc, je reviens à cette idée de vraiment avoir l'opportunité de parler dans un espace, l'excuse où c'est l'espagnol. Après, il y a une thématique qu'on aborde toujours qui peuvent être les informations, ben, nos choix, nos préférences, etc. Et la gastronomie, peu importe. Et c'est vraiment, c'est échanger, c'est connaître, c'est rencontrer l'autre. Et quel public pourrait être intéressé? Bah, je ne sais pas. J'ai clairement en tête qui pourrait être intéressé. Je pense que tout le monde, en fait, qui a envie de dire quelque chose, qui a envie de partager quelque chose, d'être écouté, d'écouter la différence, peut être intéressé. Donc, moi, j'ai dit que c'est pour tout le monde, en fait. Et si je peux me permettre quelque chose que j'ai vu il n'y a pas très longtemps dans la ville, un samedi après-midi à Montpellier, et... Je me promenais en centre-ville, ça faisait un moment que je ne l'avais pas fait, et c'est juste cette collision si belle dans un si petit espace, en fait, des gens de différentes origines, des milieux socio-économiques différents, etc. Donc toute cette diversité, et finalement, on y vit tous, en fait. Donc l'idée, c'est qu'on puisse se retrouver dans un espace qu'on a décidé d'appeler « Oh là là, Montpellier ».
Et Montpellier, oui, apparaît pour vous comme étant un lieu une ville, un territoire multiculturel où il y a une diversité. Comment regardez-vous Montpellier? Comment voyez-vous cette ville?
Ah, mais c'est beau Montpellier. Sincèrement, ben, je suis passé une fois en 2011 pour un week-end et j'ai eu le coup de foudre avec la ville et ça a commencé à se développer en fait. Et... Et j'ai pas dit la file, désolé.
Non, c'est comment voyez-vous Montpellier? Quel est le regard que vous portez sur cette ville? La considérez-vous comme multiculturelle, diverse, etc., etc.?
Oui, en effet. C'est vraiment, en ayant visité d'autres villes, c'est vrai qu'on a on peut se faire un avis plus réel, plus clair, si on y vit. Bon, si on vit dans les villes, en fait. À Montpellier, j'y ai passé un week-end, ça m'a captivé. Et j'y habite depuis 10 ans, ce qui peut surprendre parfois des Montpelliérains. C'est génial, ça. Et je continue à voir, tous les jours, des choses qui me font plaisir. La différence, les gens qui... Pas tous les jours, bien sûr, mais parfois, la petite surprise, en fait. La personne qui demande de l'argent, qui te dit bonjour parce qu'elle en a envie, tout simplement, parce qu'on se voit, on se croise de temps en temps, ou je sais pas, en fait, le fait que dans la rue, pour demander une adresse, bah, allez, je vous accompagne, on marche un peu, on discute, c'est facile, en fait. Je trouve que c'est... Voilà, c'est comme s'il y avait un peu de bienveillance, en fait. Ouais, ça dépend des contextes, des moments de la journée, etc., mais j'espère que vous voyez ce que je veux dire, en fait, par la diversité montpelliéraine qui continue de me plaire, en fait.
Donc c'est ce qui nourrit votre association Oh là là Montpellier. Revenons-y à cette association. Quand nous avons parlé ensemble de votre projet pour préparer ce fil du fer, vous m'avez dit « J'aurais aimé avoir connu un tel programme dans mon parcours de vie ». Que voulez-vous dire par cette affirmation « J'aurais aimé avoir connu un tel programme dans mon parcours de vie »
Quand, ben, sincèrement, je trouve cet espace un espace divers. Donc je reviens encore à cette idée, en fait. Et dans mon parcours de vie, ben, je pense forcément à mes années quand j'étais adolescent. Je pense à quand mon arrivée en France, où c'était un moment d'ajustement, ce qui est tout à fait normal, parce que c'est l'autre, mais c'est encore un autre. Oui. Et c'est pas l'autre que je trouve au Venezuela, mais c'est encore un autre. Et en fait, ce que j'aime de votre émission, c'est le fait que, bah, on voit que les gens viennent parler de leurs projets et qu'ils sont tous différents. Mais en même temps, je les trouve complémentaires pour la ville, en fait, parce que ça montre que toute la diversité fait la beauté. Je sens que je me répète un peu avec cette idée. Mais voilà, dans votre émission, j'ai retrouvé la diversité qu'on voit tous les jours dans la ville, pour le dire simplement.
Et donc, rentrons aussi dans ce que vous allez faire. Quels sont les ateliers que vous allez mettre en place et quel est le contenu des cours, puisque ce vont être des cours de langue, mais assez singuliers. Je crois qu'on vous en avait parlé, il y avait de l'originalité, c'est pour ça que vous êtes ici derrière le micro.
Et les cours de langue, sont des cours de langue, je dirais, de nos temps, en fait, donc adaptés aux nouvelles technologies, avec des projections, des vidéos, des films, échanges, écoutes, et le côté réel où on ne travaille pas à compléter, à conjuguer un verbe entre parenthèses et compléter des trous, en fait. Et il y a vraiment l'échange, même si on ne sait pas très bien parler l'espagnol, en fait. C'est le fait de déjà nous poser des questions entre nous, comme si on parlait entre hispanophones ou entre gens qui veulent se rencontrer, qui veulent se connaître, vraiment, en fait. Et les ateliers qu'on met en place dans l'association sont notamment soit pour renforcer le niveau d'espagnol, pour des objectifs bien spécifiques, comme passer des concours, préparer des concours, pardon, pour aller faire des études, vivre dans un pays hispanophone, pour un échange, mais aussi il y a tous les côtés culturels, en fait, où on peut faire, je vais vous dire, deux, trois choses, je ne sais pas, apprendre à faire de la bijouterie colombienne, ou apprendre à jouer du cajon et las palmas au flamenco, ou tout simplement parler du cinéma, ou des réalisateurs latino-américains, ou des sujets qu'on aborde dans les films qui touchent les gens ici en Europe qu'on regarde, des films qui viennent d'Amérique latine notamment. Et voilà, donc c'est vraiment créer un espace où on peut échanger sur des sujets bien précis, que ce soit le côté musical, que ce soit apprendre à utiliser de logiciels informatiques, que ce soit renforcer l'écriture, m'apprendre sur la littérature, échanger, apprendre à écrire des poèmes en espagnol, pourquoi pas. Donc c'est vraiment par la danse aussi. Et c'est juste une façon d'exprimer ce qu'on a à l'intérieur, en fait. Et de le faire avec des gens qui sont là et qui partagent le plaisir de partager.
Pourriez-vous nous parler de vos partenaires? Vous avez dit que vous aviez deux collègues qui étaient dans le projet. Et aussi de définir ce que chacune et chacun apporte. Si j'ai bien compris aussi, il est important sur l'identité, sur le caractère, sur les passions, etc. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez dire de cette passion de vous trois que vous allez transmettre par vos cours?
Sincèrement, c'est que la chose la plus évidente qu'on a en commun, c'est qu'on est tous les trois hispanophones. Mais après, on est très, très, très divers, en fait. Et mes deux collègues, ces deux femmes qui sont géniales, incroyables, chacune travaille...
Comment s'appellent-elles ?
Eh bien, alors, on a Anika Sancho et il y a Mara Alonso. Et elles sont incroyables, elles sont géniales, chacune enseigne à sa façon, on échange entre nous, on se met d'accord, on répartit les tâches associatives, on construit notre projet en commun finalement, chacun à sa façon, dans notre diversité, et cette envie de construire quelque chose. Donc après, si vous avez des questions plus précises sur qui fait quoi, vous me les posez. Mais ça change en fonction des semaines, c'est assez équilibré.
Une question sur le monde des langues et puis aussi la Covid, telle que nous la vivons. Vous m'avez dit donc que votre association est née de la disparition d'une association de langues. Quelle est la situation, votre regard, ce que vous savez de ce qui se passe avec la Covid et l'enseignement des langues à Montpellier? Est-ce que ça a transformé la pratique, l'apprentissage, la pédagogie?
Je pense qu'il va falloir que vous m'invitiez une prochaine fois pour en parler, parce que c'est en fonction de l'endroit où je travaille, où j'ai travaillé pendant la pandémie, que ça a marché comme ça, en fait. Aux universités où je suis enseignant vacataire, donc j'assure des modules d'espagnol, on a travaillé à distance, et c'est que j'ai trouvé ignoble. Mais c'était la seule façon de faire, donc c'était aussi important, même si ça ne me plaisait pas, d'être là, de continuer à motiver l'échange à travers un ordinateur et une caméra web. Et après, à l'association, c'était des plus petits groupes. Parfois, on réussissait à se voir dans des parcs où on pouvait travailler, quand on a eu le droit, avec le masque, et dans l'espace, dans la salle de cours, etc. Donc c'était en fonction de l'endroit. Mais en effet, je peux dire que ça a... Et renforcer l'appui ou le besoin d'utiliser les nouvelles technologies dans les cours, en fait. Donc au moins, ça nous aura tous permis à bien utiliser Zoom.
Une dernière question très courte. Comment vous contacter?
Mais très bien, c'est très simple. Soit le site internet de l'association, www.olalamontpellier, tout attaché, H-O-L-A, LA Montpellier.fr, Et soit nous envoyer un mail à Olala Montpellier, je répète, Olala Montpellier, et @gmail.com, et vous mettre en contact avec nous. Sur le site internet, il y a les informations sur les cours, sur les ateliers qu'on propose, les activités qu'on propose dans la semaine, et par mail, c'est les questions plus personnalisées.
Vous venez d'écouter le fil du fer consacré au parcours de vie et professionnel de Samuel González-Gámez. J'espère l'avoir bien prononcé. Chères auditrices et auditeurs, à bientôt pour un autre invité et un autre entretien. I'm sorry.